Bienvenue dans le podcast Formation Innovation, le podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'experts de la formation. Chaque semaine, je m'efforce d'inviter une personne remarquable avec qui j'échange sur ses méthodes, ses outils et sa vision de la formation. L'objectif de ces conversations est de montrer que l'on peut former autrement et, avec un peu de chance, vous inspirer à appliquer leurs conseils dans vos formations. Si vous appréciez cet épisode, n'oubliez pas de donner 5 étoiles sur Apple Podcast. Je lis tous les commentaires et c'est ce qui permet au podcast de continuer à exister. Vous retrouverez les outils, livres, personnes et autres sujets évoqués pendant le podcast sur formation-innovation.com. Bonjour Stéphane, merci beaucoup d'être présent avec moi aujourd'hui. Comment ça va ?
Eh ben écoute, ça va Elliot, je te remercie.
Ben merci à toi. Est-ce qu'on peut commencer l'épisode par te présenter peut-être ?
Eh ben écoute, oui, avec plaisir. Je suis donc Stéphane Intellisano, je suis donc responsable des relations entreprises et étudiants et directeur commercial auprès donc de l'Institut supérieur et professionnel de Normandie, ou autrement appelé ISPN Business School, et je suis basé sur Cherbourg.
Cherbourg, super. Alors, est-ce que tu peux me dire ce que tu fais, mais aussi comment tu es arrivé là où tu es aujourd'hui, et puis on verra dans quel ordre on arrive à la fin.
À la fin, d'accord. Je vais peut-être commencer par la genèse, par me présenter un petit peu. Alors moi, j'ai un parcours, somme toute, on va dire un peu atypique. J'ai un parcours lié à la restauration. Moi, je suis parisien de base, hein. Je suis le vrai Titi parisien de Montmartre. Donc j'ai fait toutes mes études sur Paris, dans la restauration principalement. Et suite à mes études, en fait, je me suis engagé dans la marine, où en fait, j'y ai passé 25 ans, donc dans la restauration et réellement les 10 dernières années dans la formation. J'ai eu la chance dans ma carrière de pouvoir être amené à travailler en tant que maître d'hôtel pour le président, alors Chirac à l'époque, pendant un petit peu plus de 5 ans et demi, donc une très belle expérience, je le cache pas. Et après, voilà, de fil en aiguille, j'ai fait pas mal de postes à responsabilité, et puis j'ai fini ma carrière sur 10 années en fait dans le milieu de la formation, qui a vraiment été un désir et un vœu de ma part de pouvoir transmettre à la jeune génération ou moins jeune en fait mes compétences, mes savoir-faire, et faire en sorte de les transformer dans un peu comme moi, j'ai envie de dire, mon image, peut-être en bon professionnel. Donc ça, c'était effectivement la base. Et puis, j'ai quitté en fait l'armée après 25 ans de bons et loyaux services. Et je me suis orienté dans un premier temps dans la banque. Voilà, ça c'était pas trop pour moi, les chiffres, les choses comme ça, donc j'ai vite arrêté. Je pense que je devais être trop honnête, si on peut dire ça comme ça pour les banquiers, même si j'en veux pas aux banquiers, ils font très bien leur travail, mais c'était pas du tout pour moi, donc j'ai très vite arrêté, et je me suis rendu compte que ce qui me motivait réellement, c'était vraiment aider les jeunes. Le lien avec la formation est revenu très vite, j'ai repris mes études à 45 ans, comme quoi il n'y a pas d'âge pour continuer à se former, donc j'ai passé un titre de formateur professionnel d'adulte, suite à ça, ça m'a permis de remettre le pied, dans le milieu de la formation, et j'ai eu donc l'opportunité donc d'intégrer l'ISPN en juillet 2022, donc c'est assez récent, hein, ça fait un peu moins d'un an et demi, oui. Où j'ai pris donc ce poste-là de responsable relations entreprises et étudiants, et donc directeur commercial. Donc voilà. Alors, un petit peu la genèse.
Déjà, merci pour ton service et bravo pour avoir refait, donc je vois, une alternance pendant 11 mois a priori, donc quasiment un an, pour passer formateur. Donc ça, c'est quand même pas tout le monde qui arrive, et donc bravo, vraiment bravo là-dessus. Mmh. Je suis juste curieux, comment on passe de la restauration à la formation ? Et comment tu as fait le lien et comment tu t'es dit ok, je passe dans la formation, et qu'est-ce qui t'attire, pourquoi tu n'es pas resté dans la restauration au final?
Alors en fait, ce qu'il faut savoir pour comprendre, c'est que dans l'armée, on est tous professionnels de métier, hein, donc on a tous nos spécialités, comme on les appelle, mais il n'y a pas de corps professoral, il n'y a pas de métier de formateur en fait dans l'armée. Ce qui fait que lorsque on se retrouve, nous, en école, pour être formé tout au long de notre carrière, on se rend compte souvent que les personnes qu'on a en face de nous, qui sont là pour nous former, n'ont pas forcément les outils, ne sont pas forcément à même réellement d'être formateurs. Et je me suis dit, ben, moi, c'est quelque chose qui m'intéressait. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer? Et donc, je me suis dit, ben, voilà, pour finir ma carrière, ou du moins au moment où je me suis posé la question pour continuer dans ma carrière, je me suis dit, je serais vraiment intéressé par travailler en école et plus que ça, c'est-à-dire j'ai été formateur, mais j'ai été aussi formateur de formateurs. Alors dans l'armée, ça porte un nom un peu barbare, c'est un conseiller pédagogique, où je me suis dit, ben, j'ai eu des mauvaises expériences, hein, je pense qu'on en a tous eu à l'école, et dans l'armée, ben, c'est la même chose. Et je me suis rendu compte que ben, c'était intéressant d'être formateur, mais c'était encore plus intéressant d'amener les outils, d'amener la pédagogie et l'andragogie, puisque la pédagogie est vraiment associée aux enfants, alors que l'andragogie est bien associée à des adultes. Et on se
D'accord.
rendait compte que le métier de formateur pour des adultes, donc l'andragogie, bah devait et doit et continue à évoluer, où on doit réellement prendre en compte le fait que les personnes en face ont des attentes différentes d'un enfant. Et voilà, mon intérêt, c'était de former au mieux et de donner un peu là une boîte à outils à ces militaires qui allaient devenir formateurs et de faire en sorte de faire évoluer la qualité clairement de la formation au sein de l'armée.
Ok. Alors tu m'as dit quelque chose d'assez intéressant, c'est que finalement les formateurs dans l'armée visiblement sont avant tout des experts, des professionnels d'un sujet. Si tu devais choisir entre un formateur qui n'a pas exercé le métier mais qui connaît toutes les méthodes d'andragogie, de pédagogie, de tous les outils, etc., ou un professionnel qui n'a pas tout ça mais qui a l'expérience, qu'est-ce que tu choisirais?
C'est assez compliqué, il faut vraiment réussir à trouver un entre-deux. J'ai envie de dire que l'intérêt, je pense quand même, c'est d'avoir quand même plus une personne qui a vraiment les connaissances du terrain, donc le côté professionnel. J'ai envie de dire que voilà, cette question est assez compliquée. Moi, j'avoue que dans la formation aujourd'hui, outre, je parlais de l'armée, mais même la formation dans le civil, pour le coup, il est quand même préférable d'avoir des professionnels qui ont peut-être un petit peu moins d'andragogie, mais qui, je dirais, sont à jour un petit peu de ce qui se passe sur le terrain, que d'avoir quelqu'un qui n'aurait que des capacités pédagogiques ou andragogiques, mais qui n'aurait pas assez de recul sur les attentes et les besoins, je dirais, du terrain ou des postes, réellement.
Ok. Et alors, on va revenir sur un peu plus ce que tu fais maintenant. Donc, tu t'es formé pour devenir formateur professionnel pour adultes. Mais
Tout à fait.
ensuite, aujourd'hui, ton rôle, c'est responsable relations entreprises et étudiants, slash directeur commercial. C'est pas tout à fait formateur de ce que j'entends. Comment tu as fait la transition finalement vers ça? Et qu'est-ce que tu as gardé peut-être de cette formation pour formateur là-dedans?
Alors en fait, ce qui se passe, c'est que dans le poste dans lequel je suis aujourd'hui, je peux le dire, je n'ai pas l'impression de travailler en fait un seul jour de ma vie. Je sais plus, il y a quelqu'un qui a dit cette phrase-là en disant le jour où je n'aurais pas l'impression de travailler un seul jour de ma vie, j'aurais gagné. Ben, c'est un peu ce qui m'arrive aujourd'hui. En fait, ce poste-là, c'est vraiment un mélange entre toute la partie, je dirais, commerciale qui me plaît beaucoup et la partie justement pédagogique et le côté formateur. C'est-à-dire qu'un étudiant qui va vouloir intégrer un centre de formation, quel qu'il soit, va d'abord rechercher un projet, mettre en place son projet professionnel. Donc je dirais que sur mon volet commercial, je dois être capable de lui vendre, entre guillemets, quand même la formation ou lui expliquer la formation. Et c'est là où ma casquette, je dirais, de formateur reprend le dessus, puisque pour pouvoir parler d'une formation, il faut la connaître, il faut être capable de, c'est un peu dur ce que je veux dire, mais désacraliser un référentiel, c'est-à-dire le rendre simple, expliquer les modules, expliquer les attendus, expliquer, je dirais, tout ce qui va être les savoir-faire, les choses qui vont être développées. Et l'avantage d'être passé par la formation, j'ai cette capacité d'analyse, je dirais, de documents qui peuvent être un petit peu brumeux pour des étudiants avec des programmes parfois assez complexes. Donc j'ai tendance à un petit peu simplifier les choses pour leur expliquer voilà, ce qui va se passer pendant leur formation. Et donc c'est vraiment ce côté formateur qui m'a permis, au travers de mon passif dans l'armée et je dirais la formation que j'ai faite de formateur professionnel d'adulte, qui me permet d'avoir une assise suffisante, de dire ben voilà, on va poser les choses de cette façon-là, je vais vous les expliquer le plus simplement du monde. Alors souvent bien évidemment aux étudiants, mais aussi aux parents, puisque j'ai envie de dire que c'est surtout la jeune génération, les post-bac pour des formations en BTS qui sont la majorité de nos étudiants. Et c'est des personnes qui n'ont pas forcément la capacité à comprendre tout, et donc je pense que c'est important d'être capable de leur expliquer.
Ok, donc ce qui est plus important pour toi, c'est d'arriver à synthétiser. Est-ce que tu as d'autres astuces pour mieux expliquer, vendre la formation? Et d'ailleurs, comment tu fais la différence entre arriver à convaincre et expliquer? Parce que finalement, moi, je fais un peu le parallèle avec la banque où tu disais que tu n'étais pas forcément très à l'aise avec le fait d'être trop vendeur, peut-être parfois, versus arriver à
Versus,
bien
oui.
accompagner. Comment tu jongles avec ça?
Ben en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que ben, dans mon poste, hein, dans mon rôle, c'est bien évidemment de vendre une formation, hein, je dirais que le côté commercial est là. Et en même temps, je dois être capable d'identifier, je reviens sur le projet professionnel de l'étudiant. Donc, mon premier but à moi, c'est de vraiment d'échanger, d'avoir un entretien avec l'étudiant et de ne pas me baser sur ce qu'il veut faire aujourd'hui, mais ce qu'il veut faire dans 5 ou 10 ans. Et par rapport à ce constat, je vais pouvoir, moi, au vu de l'analyse justement des formations qu'on propose, lui dire, ben, oui, vous êtes venu me voir aujourd'hui parce que vous vouliez faire cette formation, ça colle parfaitement à ce que vous voudrez faire. Et là, on peut décrire hein, dans la formation les différents modules, les savoirs qui vont être développés, les compétences qui vont être développées. Et si jamais la personne, pour le coup, se trompe un petit peu de voix parce qu'il n'a pas justement la capacité d'analyse de ces documents-là. Moi-même, je vais pouvoir lui expliquer, lui dire, ben voilà, dans 5 ans, vous voulez faire ça, mais dans la formation pour laquelle vous êtes venu me voir aujourd'hui, c'est pas ce que vous allez retrouver. Et c'est vraiment ça qui est important puisque je préfère dire non à un étudiant si la formation ou plutôt le projet n'est pas en lien avec une formation que je fais moi au travers de l'ISPN, où je vends entre guillemets au niveau de l'ISPN, et je préfère l'orienter ailleurs. J'ai eu un étudiant, par exemple, en exemple, qui est venu me voir pour me dire, bah, là, je voudrais faire un BTS en communication. Et donc, j'ai dit, voilà, j'ai essayé de gratter un petit peu en me disant, bah, d'accord, vous voulez faire de la communication, mais j'ai dit, mais vous voulez faire quoi dans 5 ou 10 ans? Où est-ce que vous voyez, dans quel type de poste? Et lorsque la personne a commencé à me parler de vouloir être un peu dans le cinéma, le 7e art, la radio, les médias, les choses comme ça, machinalement, je lui ai dit, écoutez, c'est pas que je veux pas que vous intégriez l'ISPN, mais outre la communication, ce que vous recherchez, c'est à créer du réseau, créer des choses comme ça. Et il y a des lieux pour ça, adaptés. Par exemple, Paris, bah on sait très bien, au niveau théâtre, au niveau. Voilà, tout se passe là. Il y a des villes qui sont dédiées, je dirais, dans certains domaines. Et donc, je préfère dire non à un étudiant plutôt que lui dire oui parce que ça va me faire un étudiant en plus et que son projet bah, va pas être en lien direct. Enfin, la formation ne va pas être en lien direct avec son projet. Je pense qu'un projet d'un étudiant démarre dès ses études supérieures. Et s'il le choisit bien, il ira au bout et il sera heureux, entre guillemets, d'avoir été formé dans la bonne école.
Oui, bien sûr. Et puis c'est gagnant-gagnant. On évite le décrochage scolaire qui plairait à personne, j'imagine, dans
Non,
les
et
deux
encore moins
cas.
à nous, hein.
Donc,
Encore moins à nous, effectivement.
voilà. Donc ça a du sens. Mais alors, tu dois te retrouver avec un certain nombre de personnes qui ne sont pas forcément qualifiées. Est-ce que tu as des astuces pour préqualifier? Quel système tu utilises? Ou est-ce que tu prends tout le monde au téléphone, quoi qu'il arrive?
Alors c'est pas forcément qu'au téléphone, hein, j'ai les personnes qui viennent au sein de
Ou en
l'ISPN
salon,
font
en
des
physique,
renseignements.
ou ouais.
Comment?
Ou en salon, ou en physique, ou autre,
Oui,
hein,
en
effectivement,
salon, en
mais.
physique, en porte ouverte, par tous les moyens. Après, le temps d'échange tel que je l'ai décrit là, c'est vraiment lorsque c'est un rendez-vous en face à face, un vrai rendez-vous. C'est-à-dire que lors d'un salon, on n'a pas le temps de prendre. On n'a pas un temps énorme pour pouvoir échanger. Donc, moi, je préfère aborder rapidement les choses et leur donner un rendez-vous. Et c'est dans le cadre de ce rendez-vous où on va vraiment prendre le temps de tout décortiquer. Et là, par exemple, je suis en train de mettre en place pour la rentrée prochaine, justement pour déterminer, outre le projet professionnel pur, mais la personnalité en fait de chaque étudiant. Et là, je suis en train d'essayer de voir à mettre en place un petit peu comme on pourrait avoir des bilans de compétences, mais là, eux n'en ont pas, puisqu'ils sortent pour la plupart du lycée, donc ils découvrent, je dirais, le monde professionnel, plutôt des tests liés à la personnalité. Et lorsqu'on arrive à déterminer un petit peu la personnalité, d'ailleurs, c'est au travers de questionnaires, ce qui va ressortir va me permettre de dire, ben, voilà, par rapport à vos traits de personnalité, en l'occurrence, on utilise souvent des tests qu'on appelle les tests DISC, qui permettent de déterminer certains traits de personnalité liés à cette capacité peut-être d'élocution, le fait d'être introverti ou extraverti, d'avoir un attrait, voilà, dans certains domaines. Et c'est là-dessus que je vais pouvoir me baser et affiner, je dirais, une sorte de profilage des étudiants. pour pouvoir faire un matching de qualité après avec des entreprises dans le cadre, par exemple, de contrats en alternance.
D'accord, donc vous avez un peu un persona type, j'imagine, quand même dans l'école. Bon, c'est l'école de commerce, hein, donc on peut imaginer que la communication, c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas que la personne soit trop timide et ait quand même envie d'avancer sur les sujets marketing, business ou autre. Quel outil vous utilisez ? Est-ce que c'est un outil que vous avez développé vous-même ? Est-ce que vous utilisez un Assess First ? Qu'est-ce que vous utilisez pour ça ?
Oui, c'est ça, c'est un Assess First. Voilà, c'est vraiment pour avoir, je dirais, un profil type. On ne veut pas forcément rentrer dans des, comme je disais, dans des bilans de compétences ou dans des choses trop, trop complexes. Hein. Après, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la motivation aussi de l'étudiant. C'est-à-dire qu'on n'est pas une école élitiste et ce n'est pas ce qu'on recherche. Et aujourd'hui, prendre les meilleurs, c'est passer à côté de personnalités, d'étudiants qui, pour certains, n'ont pas forcément eu des bonnes notes avant avec un système, je dirais, peut-être trop académique. Et le fait de rentrer dans le milieu de la formation et de laisser la chance à quelqu'un qui, oui, n'a pas eu des bonnes notes avant, mais qui nous démontre une vraie détermination et une motivation à réussir son projet. Et ben justement, je reviens à ce que tu disais, Eliott, sur le fait que certains étaient peut-être timides, mais cette timidité vient justement parce qu'ils n'avaient pas cette possibilité de s'épanouir, je dirais, dans un domaine qu'ils auront choisi et qui est vraiment en lien avec leur projet professionnel.
Ok, je comprends. Et est-ce qu'il y a d'autres outils que tu utilises pour améliorer le recrutement ? Donc là, dans un spectre un peu plus large, est-ce que vous avez des outils, par exemple, de recommandations d'ambassadeurs, peut-être de communication ? Qu'est-ce que tu utilises comme outil aujourd'hui pour arriver à recruter sur une école qui n'a peut-être pas le même rayonnement qu'un HEC, par exemple, naturellement ?
Oui, tout à fait. Alors, je t'avoue que en termes de profilage, moi je me base beaucoup sur l'humain, c'est-à-dire que je dis pas que les tests sont pas bien, j'en fais quelques-uns, mais après moi derrière, ce qui va se passer, c'est que lorsque l'étudiant va venir nous voir, il va avoir une préinscription, il va rentrer dans un parcours, en fait, ce qu'on appelle un parcours alternance, où on va lui proposer de réaliser des ateliers de coaching sur toute la partie CV, lettre de motivation, des choses qui sont totalement inconnues pour eux, ils n'ont jamais eu à se vendre. Et au travers justement de l'assiduité de leur présence à ces ateliers, de l'évolution, du côté documentaire, on peut le dire, hein, CV, lettre de motivation, mais aussi leur attrait aux réseaux sociaux est assez important. Moi, je leur demande voilà, de créer, par exemple, des profils LinkedIn. Et en fait, toutes les choses qui vont tourner autour de ce parcours alternance vont me permettre de réaliser aussi un profilage par rapport à l'étudiant, puisqu'il va être amené à parler de lui, ne serait-ce que sur un profil LinkedIn. On en dit beaucoup plus, on peut aborder un côté associatif, des partenariats, enfin, il y a vraiment des choses qui vont ressortir durant ce parcours alternance. Et c'est sur ces choses-là, en fait, que je vais me baser et sur les échanges que je vais avoir, parce que je fais vraiment des suivis personnalisés, individualisés pour chaque étudiant. Alors oui, c'est chronophage, oui, ça prend du temps, mais c'est important de donner du temps justement aux étudiants. Et quand on leur en donne, ils sont encore plus déterminés à réussir et à s'engager, je dirais, dans un projet professionnel.
Alors j'ai plein de questions, je suis juste curieux de savoir comment tu arrives à suivre personnellement. Il y a combien d'étudiants déjà à l'ISPN ?
Alors là, sur le site de Cherbourg, on a 148 étudiants, et sur les 148 D'accord. étudiants, on en a 97% en alternance.
D'accord, donc tu arrives à suivre, donc tu as peut-être 145 étudiants en fait.
Ça fait 142 si je ne me trompe pas, ça doit
D'accord, être. D'accord. mais donc comment tu arrives à suivre autant de personnes manuellement ? Tu utilises un outil pour ça ou tu fais tout de tête ?
Alors non, pas de tête. Hein. Moi, j'utilise des tableaux, alors somme toute simple, hein, de l'Excel. Pour moi, je suis un peu à l'ancienne parfois, mais à chaque point de contact, je vais venir abonder en fait, pardon, ce tableau où je vais expliquer voilà de quelle façon j'ai contacté l'étudiant, ce qui a été fait, comment ça a été fait, quel est le prochain point de contact, quel est le prochain D'accord. élément. Et ça me permet de suivre en fait l'ensemble de mes étudiants, donc classés bien évidemment par filière, et ensuite derrière au travers donc du parcours alternance, de ce suivi personnalisé, et on leur met à disposition aussi un outil qui s'appelle Grimp. On travaille avec une startup qui est ni plus ni moins qu'un job board sur lequel ils ont aussi un tableau de bord pour suivre un petit peu leur candidature, leur prospection auprès des entreprises, hein, puisque nous on les aide d'une part avec nos entreprises partenaires, mais ils doivent aussi de leur côté prospecter pour trouver des contrats en alternance. Et ça me permet au travers de cet outil de pouvoir à tout moment suivre, aller voir un tableau de bord pour tel ou tel étudiant. Et si l'étudiant me dit voilà, j'ai du mal à trouver et je vois que le tableau de bord n'est pas forcément bien rempli, ben, je vais appuyer entre guillemets, on va dire là où ça fait mal, en disant bah, à un moment donné, c'est si vous voulez trouver, il faut vous structurer, on vous amène des outils. Ces outils sont là pour faire en sorte que ce soit plus simple pour vous. Donc, pour y arriver, il faut utiliser les outils, en fait, tout simplement.
D'accord, ok, je comprends. Ouais, Grimm qui s'est pas mal développé, effectivement, ouais, dernièrement.
Ils ont soulevé un million d'euros dernièrement de subventions, oui, tout à fait.
Et donc, tu t'es fait ton mini CRM, finalement, sur Excel pour suivre les apprenants, de ce que je comprends. Donc, tu as Grimm de l'autre côté. Donc, ok, tu es bien équipé de ce côté-là. Ouais. Et est-ce que tu as des outils, des astuces que tu utilises pour avoir plus de personnes qui viennent au salon te rencontrer? Comment tu arrives à prospecter? Ou est-ce que juste le bouche à oreille, en fait, suffit pour que des personnes arrivent à l'ISPN?
Alors, j'avoue que le BAO, donc le bouche à oreille, est quand même relativement important et ça fait souvent la différence parce que il est alors les salons, bien évidemment, hein, on participe à des salons, mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que les futurs étudiants rencontrent les étudiants actuels. Les meilleurs ambassadeurs pour l'ISPN, et je pense pour n'importe quelle école, c'est les étudiants eux-mêmes. Moi, je suis, entre guillemets, voilà, un commercial, je peux très bien vendre une formation, mais les meilleures personnes, les mieux placées pour en parler, ce sont les étudiants eux-mêmes. Donc, je privilégie, moi, des portes ouvertes, de façon à pouvoir faire une interconnexion entre des étudiants actuels et des futurs étudiants pour qu'ils puissent se rencontrer et par filière, donc je fais venir des étudiants de chaque filière, à chaque porte ouverte, de façon à ce que l'ensemble des étudiants, des futurs étudiants, puissent échanger avec eux, voire même échanger leur numéro pour aborder la formation, des choses comme ça. Et ça crée un lien déjà avant même qu'ils rentrent dans l'ISPN. Et après, derrière, il y a du bouche à oreille en disant, bah voilà, quand tu vas à l'ISPN, c'est pas juste quelqu'un qui va te recevoir, qui va te donner un document en disant, bah voilà, vous revenez nous voir quand vous avez trouvé une entreprise et on vous prendra en alternance. Je pense qu'il y a vraiment ce rapport humain entre une sorte d'alumni, comme on voit maintenant hein, en ligne, entre des anciens et des nouveaux. Et moi, j'essaye de créer ce lien-là. Et donc, j'ai envie de dire que le bouche à oreille passe beaucoup. Je fais des salons, bien évidemment, on diffuse au travers de différents canaux de communication, donc que ce soit publicitaire, à la radio, on passe effectivement sur Énergie. Donc voilà, on passe au cinéma au niveau du CGR, nous sur Cherbourg, on a un spot effectivement au niveau du cinéma, parce que tout le monde va au cinéma, donc notre intérêt c'est de toucher les étudiants, mais bien évidemment leur famille, puisque il faut que l'information leur arrive, et je souhaite surtout moi ne pas voir un étudiant, je dirais du Nord-Cotentin, ou de Cherbourg, aller loin chercher quelque chose qu'il pourrait trouver en fait simplement sur place.
Oui, c'est sûr. Donc, il y a des efforts marketing un peu plus locaux, du coup, là, de ce que je comprends dans le cas présent. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu de la relation entreprise, parce que c'est vrai qu'avec 97% d'alternants, il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de contrats et de relations qui se créent. Mm-hmm. Quelle est ta place là-dedans? Est-ce que vous avez énormément de relations entreprises? Et pour toi, c'est quoi une relation idéale avec une entreprise? Et si tu dois peut-être faire passer un message à une entreprise qui aimerait travailler avec des écoles, ce serait lequel?
Alors, je pense que le message que je dois faire passer au niveau des entreprises, c'est le premier, c'est ne prenez pas un alternant si vous n'avez pas les missions en fait appropriées. Je pense que tout étudiant qui fait une alternance est un salarié hein, de l'entreprise, il signe un contrat et qu'au travers de ce contrat, les deux parties s'obligent à quelque chose, ont des droits et des devoirs. Et j'ai envie de dire que on prend pas juste un étudiant pour dire c'est juste de la main-d'œuvre. Je pense qu'il faut, valoriser les alternants. Il y a des vrais talents. Et parfois, certaines entreprises prennent pour prendre. Après, en termes de relationnel, moi, je pars du principe où il faut une vraie transparence de la part d'un centre de formation sur la formation, sur les suivis de qualité, suivi de satisfaction, bien évidemment, le côté, j'irais, administratif, de mise en place de contrats, le suivi pédagogique aussi. Beaucoup de centres de formation placent des alternants dans les entreprises et ensuite n'envoient simplement que des mails en disant, ben voilà, en termes de suivi, merci de remplir ce document-là et nous le renvoyer dans le cadre du suivi de un tel ou un tel. C'est ça, c'est pas des relations, c'est si la formation pense que les relations d'entreprise, c'est comme ça que ça passe, c'est voué à l'échec, et c'est voué à l'échec. On se rend compte, moi j'ai beaucoup d'entreprises qui me disent on ne travaille plus avec tel ou tel centre, parce que justement, on n'a pas cette relation. Nous, ce qu'on souhaite, c'est à un moment donné, quand on appelle le centre, on tombe sur quelqu'un. Moi, l'ensemble des entreprises, et c'est un vrai vœu de ma part, ont tous mes coordonnées, et c'est moi, en fait, entre guillemets, la pierre angulaire. C'est-à-dire que je suis le responsable des relations entreprises, donc étudiants, et à ce titre, je m'impose même que quel que soit le moyen de communication, voilà, que ce soit un mail ou un coup de téléphone, j'y réponds dans les 24-48 heures. Je transmets entre guillemets au secteur concerné, et une relation c'est ça, c'est-à-dire que on se doit d'être disponible, et la disponibilité pour les entreprises, c'est ce qui fait la différence aujourd'hui au niveau des centres de formation sur la capacité à répondre à une demande ou entre guillemets à accéder à une requête. Moi j'ai des entreprises qui me disent l'étudiant devait être en formation, j'ai un vrai besoin, parce que ça reste des entreprises, est-ce qu'il est possible de trouver un arrangement? Eh bien oui, on trouve un arrangement, mais on peut le faire parce que j'échange, et j'échange rapidement en fait avec eux.
D'accord, donc la réactivité qui est très importante. Alors j'imagine que si tu avais 1500 apprenants à gérer, il faudrait quand même trouver un petit système pour répartir.
Je ne serais pas tout seul. On ferait la même chose, mais on le fera à plusieurs.
Ouais, c'est ça, ok. Exactement. Et comment tu vois les relations avec les entreprises évoluer dans le monde du supérieur dans les années qui viennent? Parce que ça, c'est un sujet que moi, je vois par ailleurs. On a beaucoup plus d'alternance déjà en France. Mmh. Donc forcément, la place des entreprises dans la formation a plus de place. Mmh. Mais en même temps, c'est vrai que parfois, comme tu viens de le dire, la relation n'est pas tout à fait parfaite, ou en tout cas, elle n'est pas parfaitement alignée d'un côté ou de l'autre. Donc, comment tu vois ça évoluer dans les années à venir, dans l'idéal, dans le meilleur des mondes, ça irait vers quoi?
Alors, déjà, je pense que la première chose à prendre en compte, et elle est considérable, et elle est, je dirais, même politique, on est obligé d'en faire un petit peu, c'est que aujourd'hui, le gouvernement octroie des aides financières aux entreprises pour justement prendre des personnes en apprentissage. Donc ça facilite les choses. Et pour demain, j'ai envie de dire, si on veut conserver, je dirais même des entreprises qui acceptent de prendre des alternances, ça va passer par une transparence, par une facilité d'échange sur comment fonctionne l'alternance, et puis c'est une relation de confiance qui se crée. C'est-à-dire que pour travailler avec des entreprises, pour avoir des vrais partenaires, c'est vrai que ça se fait pas forcément comme ça, et on peut en perdre certains avec le temps, parce que y a des choses, tout ne peut pas être parfait malheureusement, et parfois certaines entreprises, donc on risque de les perdre. L'intérêt, c'est d'être à l'écoute, donc d'être toujours dans l'amélioration continue, d'être capable d'auditer justement ces entreprises et de leur dire, dites-nous ce qui ne fonctionne pas, et surtout, c'est pas juste l'entendre, c'est-à-dire de mettre des actions correctives liées justement à ces problématiques-là. Et derrière, le jour où, et on le sait, ça sera sûrement lié aux élections présidentielles, où s'il n'y a plus du tout d'aide octroyée au niveau des entreprises pour prendre des apprentis, ça va être justement le travail que réalisent les centres de formation et les responsables, je dirais, de relations, qui vont permettre de dire, ok, on n'a plus d'aide, mais le travail que l'on fait ensemble, grâce aussi aux alternants, ok, n'est plus valorisé par une aide, mais la plus-value, elle est là, en fait. Les étudiants que vous nous envoyez, on nous apporte un bénéfice financier d'une part, mais peut-être dans le relationnel, dans l'entreprise aussi, puisqu'on ne travaille pas que sur des savoir-faire, on essaie de travailler sur les savoir-être, sur les savoir-vivre, et je pense que la plus-value de demain, ça va être ça, oui, on n'a plus d'aide financière, donc on sait qu'on ne va pas obtenir quelque chose pour prendre un alternant, mais la plus-value, elle va être sur l'humain, elle va être sur les compétences, et elle va être sur le relationnel, et je reviens effectivement sur le côté relation entreprise et étudiant au niveau des centres de formation.
D'accord, donc si les subventions, qui sont en fait une espèce d'épée de Damoclès qui peut tomber à tout moment, venaient à tomber, ce serait des formations qui sont... Ouais, pour toi, c'est sûr que ça va...
On ne peut pas avoir de certitude aujourd'hui, mais on sait que jusqu'en 2027, le gouvernement veut arriver à 1 million d'alternants par année. Pour y arriver, à un moment donné, il faut... donner la main, et donner la main financièrement, ça fonctionne bien. Donc jusqu'en 2027, oui, clairement, ces aides perdureront, baisseront peut-être, mais perdureront. Au-delà, c'est un peu flou et je pense qu'il faut attendre.
Ouais, donc à ce moment-là, il faudra faire attention et peut-être que seuls les organismes de formation et grandes écoles qui auront cette touche humaine et qui comprendront les besoins des entreprises, qui sauront s'aligner, de ce que je comprends, arriveront à se démarquer et les autres seront
Tout à
peut-être un
fait. Et
petit peu
après,
plus
ça
en
passe aussi
difficulté. Mais bon, on
par.
a encore un petit peu de temps, visiblement, 2027,
Oui,
on n'est pas encore tout à fait.
c'est pas demain, c'est après-demain. Tout à fait.
On en reparlera dans 5 ans et on verra
Bah écoute,
comment.
on refera un podcast si tu veux et on en reparlera avec grand
Exactement.
plaisir.
Voilà, parfait. Ok, bah écoute, super. Je commence à avoir fait un petit peu le tour là du sujet commercial, étudiant, relations entreprises. Moi, il y a un petit truc qui m'intéresse, c'est est-ce que tu te sens proche aujourd'hui des étudiants après qu'ils aient fait la formation? Est-ce que vous avez un programme? Parce que tu parlais d'alumni, tu parlais de l'importance des ambassadeurs. Est-ce que vous prévoyez de pousser ça, même avec des communautés? Parce qu'on voit dans les organismes de formation, par exemple, comme Le Wagon, Rocket School, ils vont avoir des Discord, des Slack. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous envisagez de mettre en place ou vous avez déjà mis en place?
Alors, on l'envisage fortement, dans le sens où on souhaite créer justement un alumni avec nos anciens étudiants, pourquoi pas devenir mentor sur des jeunes
D'accord.
arrivants pour les aider, pour les aiguiller aussi. On souhaite nous faire venir, et on l'a déjà fait, pardon, faire venir des anciens étudiants pour expliquer leur parcours, expliquer où ils en sont aujourd'hui. Et c'est en termes d'échange, c'est très enrichissant pour nous, mais aussi pour nos nouveaux étudiants, de voir un petit peu l'évolution dans leur carrière professionnelle et par où ils sont passés. Il y aura eu des hauts, des bas, mais ce qui est important, c'est de créer vraiment du lien, et ça crée du lien, mais ça crée du réseau aussi.
Tout à fait. Oui, c'est sûr que forcément, pour découvrir enfin, récupérer ou accéder à un premier emploi, les alumni sont clés. On est toujours mieux accueillis par quelqu'un qui a fait la même école que, enfin, en général. Donc, c'est sûr que c'est un gros plus. Écoute, Stéphane, je vois le temps qui file. Si ça
Oui.
te va, je te propose de passer aux questions de la fin. Est-ce que ça te convient?
Mais
Oui.
avec plaisir.
Eh bien, allons-y. Alors, première question qui est la plus large, la plus grande. Est-ce que tu peux me dire, pour toi, la formation dans 10 ans, c'est quoi?
Alors, la formation dans 10 ans, c'est une très bonne question. J'ai pu participer hier à une conférence sur l'intelligence artificielle. Alors, tu vas me dire, quel est le lien?
D'accord.
On peut pas se cacher que aujourd'hui la formation en présentiel est très bien, mais l'avenir va passer par beaucoup d'auto-formation dans certains domaines, et je pense que l'intelligence artificielle va avoir un gros rôle à jouer. Ça peut faire peur, ça fait peur d'ailleurs, surtout quand on voit la capacité de certains outils comme, pour pas le nommer, ChatGPT. Mais je pense que la formation va évoluer en utilisant des outils de toutes parts, hein, que ce soit sur le parti formateur ou formation, que sur la partie étudiante. D'ailleurs, on sait pertinemment que des étudiants aujourd'hui utilisent, hein, cet outil pour pratiquement rédiger, hein, certains de leurs mémoires ou autres. Mais bon, j'ai fort espoir quand même que certains étudiants puissent d'eux-mêmes avoir la capacité à rédiger leur propre mémoire. Mais je pense que la formation va évoluer, et elle doit évoluer plutôt que faire des formations, je dirais, somme toute génériques. Elle doit évoluer par rapport à des vrais besoins du marché. C'est-à-dire que on sait qu'il y a des diplômes nationaux, enfin des diplômes d'État, des choses comme ça. Il y a des titres professionnels, et on se rend compte que pour valoriser après derrière, un titre professionnel est beaucoup plus proche, je dirais, des besoins actuels du marché. Alors que souvent, certains examens nationaux, certains BTS, bah, commencent un peu à s'en éloigner parce qu'il n'y a pas forcément une mise à jour qui est faite aussi régulièrement qu'un titre professionnel. Donc je pense que on va
D'accord.
peut-être même arriver à avoir des formations beaucoup plus modulaires, beaucoup plus courtes, mais en gardant, je l'espère, ce côté terrain, l'alternance. Je pense que c'est une vraie opportunité pour la jeunesse future et même actuelle, de se dire, ben voilà, pour rentrer dans le monde du travail, eh ben, je vais y aller, je dirais, première étape par l'alternance, et puis ensuite, derrière, voilà, rentrer à plein temps. Et je pense que la réflexion même du gouvernement de valoriser l'apprentissage, je suis moi-même, hein, un enfant de l'apprentissage, dans le cadre de mon métier de la restauration. Donc, j'aime ça et je le défends bec et ongles, comme on dit. Et je pense que l'avenir de la formation va passer déjà par des vrais formateurs professionnels, c'est-à-dire que il faut une vraie valorisation. On vient, comme tout à l'heure, on parlait d'andragogie. Tout le monde n'est pas amené et ne peut pas être formateur. On peut être très bon dans ce qu'on fait. Je pense qu'il faut s'assurer de la capacité du corps enseignant ou du corps formateur à se dire, voilà, on ne prend pas n'importe qui et qu'est-ce que la personne va pouvoir amener. Et je pense qu'il faut que ça évolue aussi dans ce sens-là, en disant, on veut vraiment former des vrais professionnels de demain et des personnes qui sont à même d'être aussi des bons managers, parce que outre, je reviens sur des capacités vraiment professionnelles, le savoir-être, le savoir-vivre, le management, c'est ce qui fait beaucoup défaut aujourd'hui. Et on sait que l'avenir professionnel pour nos jeunes est de changer beaucoup d'entreprises, contrairement à moi qui suis un petit peu plus ancien et qui est passé donc 25 ans rien que dans la marine, ben, ça fait déjà un quart de siècle, je ne suis pas sûr qu'un jeune aujourd'hui le fasse. Tu m'entends ?
Oui, tout à fait.
Ah, pardon, excuse-moi, j'ai cru qu'on avait été coupé. Donc voilà, non, je pense que l'avenir de la formation va passer par beaucoup plus de professionnalisation. Je jette absolument pas la pierre, bien évidemment, la partie théorie, mais je pense qu'il faut beaucoup plus de côté professionnel, de mise en pratique et de mise en situation, de choses comme ça, que de théorie. Je pense que c'est l'avenir réellement dans l'enseignement et surtout dans la formation.
Génial, donc peut-être réserver la théorie un peu plus pour le savoir-être, le management et toutes ces compétences-là et peut-être voilà. Un peu plus de
sur du transverse, oui, je pense sur du transverse, on peut en avoir. Ouais. Maintenant, sur le reste, rester vraiment sur de la formation pro.
On le voit, hein, de toute façon, ça va être la valeur des écoles du supérieur de demain, hein, parce que c'est forcément le concret va pouvoir être appris beaucoup plus facilement dans de l'alternance avec des entreprises.
Oui, tout à fait.
Ok. Est-ce qu'il y a une personne ou un média que tu suis, que tu recommandes dans l'univers de la formation ?
J'ai pas de média, en fait, que je suis particulièrement. Par contre, je trouve important d'être vraiment, par contre, toujours à... on va dire à la page, même si ça fait un peu vieux de dire ça, mais au travers des réseaux sociaux. Et je trouve que y a beaucoup de choses qui sont faites au travers de LinkedIn ou même de podcasts, hein, je reviens là, où ça amène beaucoup d'informations, ça évolue très vite, que ce soit dans les outils, dans les méthodes. Et je trouve que je peux pas dire que j'ai un seul document ou une seule chose en fait sur lequel je me base. Moi, je suis vraiment un touche-à-tout et j'aime aller chercher un petit peu partout. Alors, je fais pas mal de veille sur pas mal de groupes, surtout sur LinkedIn, dans tous les domaines. On parlait de la formation. Je suis pas RH, mais je vais me renseigner sur le monde RH. J'ai pas de cursus réellement commercial, mais je vais avoir un attrait justement aussi pour tous les domaines en fait m'intéressent. Donc, j'ai pas un bouquin ou même une seule personne que je mettrais en avant réellement aujourd'hui.
Zut, alors tu as presque répondu à la prochaine question.
Ah,
qui
mince,
est-ce que tu as
désolé,
un livre sur ta table de chevet? Est-ce que tu as quand même un livre que tu lis en ce moment ou que tu recommandes, même si tu n'as pas un ouvrage en particulier peut-être auquel tu reviens toujours?
J'ai pas d'ouvrage en fait, je suis vraiment je vais changer tout le temps, mais alors je lis peu. je lis très peu. Je suis vraiment plus, tu vois, les podcasts sont plus des choses que je trouve agréables à écouter, ou des livres audio. Je suis pas très livre. Donc j'ai pas de livre de chevet, je n'en ai même pas d'ailleurs, je crois, sur mon chevet, si on peut encore appeler ça un chevet, ça fait un peu ancien, mais je n'ai pas de livre. Je suis vraiment plus sur le côté digital en fait, aller chercher les informations, et je suis plus dans ce sens-là. Ouais.
Ok, alors tu te reconnaîtras peut-être plus dans la prochaine question, qui est-ce qu'il y a un outil digital que tu recommandes ?
Alors j'ai envie de dire, j'en ai parlé tout à l'heure, le chat GPT, je reviens dessus. L'intelligence artificielle, même si ça peut faire peur, il y a plein de choses qui sont vraiment très intéressantes avec. Et par rapport au monde de la formation, par contre, j'ai envie de dire que le PowerPoint est dépassé, je le dis. Beaucoup utilisent ça. Il y a énormément d'outils qui peuvent être utilisés, qui sont. Ce qu'il faut, c'est surtout qu'il y ait beaucoup d'interactions. Et j'ai envie de te dire que outre un seul outil, Et changer d'outil, en fait, c'est aller chercher les nouveautés. Je prends un exemple, les K-Outs, en termes de questionnement pour les étudiants, fonctionnent très bien. Enfin, il y a plein d'outils digitaux et qui évoluent. Il y en a qui sortent pratiquement tous les jours. Et j'ai envie de dire, ne pas rester sur un seul outil et rester pareil en veille. Et plus on reste en veille, nous-mêmes professionnels ou anciens, on va dire, plus les jeunes se rendent compte de notre implication à dire, bah, voilà, vous utilisez vous ces outils-là, bah, on va utiliser les mêmes avec vous, et ça leur parlera encore plus en fait dans l'avenir.
Super. Stéphane, merci pour tout ça. Est-ce que tu peux me dire où on peut te trouver si jamais on souhaite en savoir plus sur ce que tu fais ou l'ISPN, ou si un étudiant nous contacte?
Alors, dans un premier temps, sur LinkedIn, hein, donc Stéphane Intellisano. Ensuite, simplement en allant sur le site de l'ISPN, donc ISPN.fr. Alors, si on veut moi directement, il faut aller cliquer sur le centre de Cherbourg, mais il faut savoir que je travaille pour l'ensemble du réseau au niveau commercial. Hein. Donc, mon intérêt, c'est de développer, bien évidemment pour les étudiants, mais le côté, on parlait de partenaires grands comptes. Que ce soit des étudiants, mais bien évidemment des entreprises. Hein. Je suis totalement à l'écoute et ouvert à la discussion et à l'échange pour créer des partenariats pérennes et un avenir plutôt radieux pour nos étudiants, puisque plus on a d'entreprises, plus on a d'étudiants, plus ça va amener du professionnalisme et ça va développer effectivement ce côté professionnel de la formation en tous les cas.
C'est sûr, et puis j'imagine plus facilement on arrive à faire des matchings aussi qui correspondent bien au profil des étudiants et les recherches des entreprises.
Exactement, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir des entreprises, mais si je n'ai pas d'étudiants, je ne peux pas les proposer. Ouais. Inversement, si j'ai beaucoup d'étudiants et pas d'entreprises, on ne peut pas faire de matching. Je suis tout à fait d'accord, Elliot.
Alors merci beaucoup pour toute cette interview. J'aimerais qu'on clôture le podcast par un dernier mot, si tu en as un, avant qu'on s'arrête là.
Ce que je propose, en fait, moi, et le mot de la fin, c'est faites ce qui vous passionne. Réellement, si on veut être bien dans sa carrière, dans sa vie privée, c'est de trouver un sens. Et moi, je travaille vraiment par passion. J'ai l'impression d'être utile surtout. Donc, soyez utile. Dites-vous que ce que vous faites donne du sens pour vous, donne du sens avec qui vous travaillez et peut-être pour les gens. Pour qui, en tout cas, vous travaillez. Voilà.
Stéphane, merci beaucoup pour le temps accordé aujourd'hui.
Je t'en prie, Elliot, avec plaisir.
Très belle formation. Bah non, mais c'est moi qui te remercie. Et puis à bientôt.
À bientôt. Merci, Elliot.
Merci d'avoir écouté Formation Innovation. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode. Si c'est le cas, le meilleur moyen de soutenir le podcast est de laisser une note sur Apple Podcast. Afin de retrouver les sujets évoqués pendant cet échange et de ne rater aucun épisode, rendez-vous sur formation-innovation.com. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et bonne formation.